Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Comme tous les mercredis, nous sommes en direct jusqu'à 18h pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Nos invités du jour, Julie Mautier d'abord, qui est responsable du service d'aide aux victimes pour l'association Inimontaigne DIR. Elle nous parlera du point d'accueil éphémère pour les femmes victimes de violences conjugales, installé au centre commercial Au Shopping Grand Plaisir la semaine dernière. Franck Leton, responsable de la communauté Emmaüs de Trappes, nous parlera de l'appel au don national d'Emmaüs France pour venir en aide aux différentes communautés Emmaüs à travers le pays, une première depuis 1949. Enfin, notre troisième invité, Abdelaziz Al-Jawari, président du Centre d'études et d'initiatives musulmanes des Yvelines, sera avec nous à quelques jours du début du Ramadan pour nous parler notamment de l'organisation du jeûne dans le cadre du confinement. En fin d'émission, la minute conso de Pierre Joanet, il nous expliquera pourquoi il ne faut pas jeter les lingettes désinfectantes dans les toilettes. Allez, musique, et on revient juste après avec notre premier invité.
La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches, on fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches, demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches. On a la vie devant nous pour user nos cartouches. Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche. Degré dans le rouge, des couples copulent sur la lune. Copine, c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes. Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes. On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, y'a de l'humour dans l'air. Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour.
A situação aqui tá difícil. Faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral é um suplício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, a lua cheia. O seu perfume é da Chino de Paris. Cê torce pro PSG. Aí o que falta pra tu ser feliz? Sol, vento na cara, chope gelada, biquíni, sandália. Mais uma noite no Brasil. Vamos a pé, caminhar na praia, e cair na gandaia, nas ondas do amor.
Allonger la tête dans les nuages, la nuit bleutée. Lève les yeux là-haut, le ciel est à notre portée. Est-ce un drone, une étoile, oh peu importe, fais un vœu. Le cadran essoufflé affiche une heure de couvre-feu. Cachaça, sucre canne, glaçon pilé. Mon petit cœur est un citron dans un mortier. Le ciel est clairsemé comme la piste de danse. Où sont passés les temps sereins, ont rien de porté à conséquence. Un fragment de volupté, un parfum, une archive, une fragrance d'été. Une fumée suffocante, tes contours et mes pensées me fouettent comme une pluie battante sur le pas de passants pressés. Viennent des lueurs à la fenêtre, la nuit qui meurt pour voir un nouveau jour naître. Et comme le temps nous est compté, j'irai camper sur tes lèvres pour m'endormir à t'écouter.
Ondas do amor.
vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Comme tous les mercredis, on est ensemble de 17h à 18h en direct pour parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Allez, tout de suite, notre premier invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
La semaine dernière, un point d'accueil éphémère pour les femmes victimes de violences conjugales a été créé au sein du centre commercial Au Shopping Grand Plaisir. Pour en parler avec nous, Julie Mautier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service d'aide aux victimes pour l'association DIR. Alors, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous présenter cette association, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr. Alors, l'association DIR, à la base, c'est une association de prévention générale qui est basée sur Montigny-le-Bretonneux depuis 1990. Mmh. Et en plus donc du service de prévention, vous avez un service d'aide aux victimes qui, lui, est un service départemental dont je suis donc la responsable. Notre service prend en charge les personnes qui s'estiment victimes d'une infraction pénale. Bon, alors en gros, qu'est-ce qu'on entend par victime d'infraction pénale ? Tout ce qui est atteinte aux personnes, donc les violences, les menaces, les harcèlements, les agressions à caractère sexuel, toutes les atteintes aux biens, les escroqueries, les vols, les cambriolages, mais également les accidents de la circulation et toutes les catastrophes collectives, donc les actes de terrorisme en font partie. Nous sommes conventionnés par le ministère de la Justice, ce qui fait que nous sommes également mandatés par le parquet si besoin. Et on est également membre du réseau national France Victimes. C'est le réseau qui regroupe toutes les associations d'aide aux victimes du territoire français.
Alors Julie Mautier, comment est venue l'idée de la création d'un point d'accueil éphémère pour les femmes victimes de violences conjugales au sein du centre commercial de Plaisir ?
Alors, on vit très clairement une période complètement surréaliste, mais aussi une période d'urgence sanitaire qui est telle que le confinement exacerbe les violences, et notamment les violences au sein du couple. Mmh. Donc on a entendu en fait la volonté de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État, et on a été également sollicité par notre déléguée départementale aux droits des femmes, Marielle Savina, notamment pour organiser des points d'accueil dans les centres commerciaux pour toucher au plus près les femmes victimes. Donc, on a mis en place, alors grâce à le volontariat aussi dans notre structure, que l'idée, nous, depuis le début du confinement, on a maintenu nos activités d'aide aux victimes à distance, à visio, etc., pour protéger bien sûr nos salariés. Mais on souhaitait continuer à montrer que nous étions présents et nous étions solidaires. Et donc, deux de nos salariés se sont portés volontaires pour expérimenter cette action au sein du centre commercial Au Champ Plaisir. Donc on a commencé cette permanence la semaine dernière.
Oui.
Elle se tient tous les mardis de 13h à 17h dans des locaux très, très discrets et en même temps où on est assuré de la confidentialité, où les gestes barrières sont assurés également, juste à côté de la pharmacie. L'idée, c'est d'y faire un premier accueil des femmes et également une orientation vers les services compétents. C'est important de préciser que les tribunaux continuent à travailler, notamment en matière de violences intrafamiliales, que les services de police également, que les services de gendarmerie. Et donc, nous, on est là aussi pour pouvoir justement réorienter en fonction des urgences, en fait.
Alors, vous le disiez, Julie Mautier, la première permanence s'est tenue mardi hier, donc, ou la semaine dernière.
La semaine dernière.
Ouais. Est-ce qu'il y a des femmes quand même qui osent franchir le pas et venir vous voir ? Alors là, on le sait que c'est le début de ce point d'accueil éphémère, le temps qu'il soit connu. Mais est-ce qu'il y a des femmes qui viennent quand même vous voir, qui viennent pousser la porte de votre point d'accueil ?
C'est toujours délicat quand c'est les débuts, justement, parce que c'est vrai que c'est un endroit un petit peu atypique, les gens viennent faire des cours, donc souvent on pense pas à aller rencontrer un professionnel de l'aide aux victimes à ce moment-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on a mis une signalétique en place, on a rappelé les numéros de téléphone de notre structure. Donc, par contre, on a remarqué que depuis qu'on a fait cette communication au sein du centre commercial, on a plus d'appels de femmes victimes qui justement n'ont peut-être pas osé venir, ou en tout cas peut-être ne faisaient pas leurs courses le mardi spécifiquement, et donc nous appellent pour savoir si elles peuvent venir le mardi suivant, ou si elles peuvent s'entretenir avec une juriste ou une psychologue par téléphone. Donc au moins, ça a le mérite de pouvoir relancer à la communication autour de ce qui est possible pendant cette période de confinement, en fait. De rappeler que les services existent toujours et continuent leur travail.
Vous vous attendiez, Julie Mottier, à une explosion de ces chiffres. Alors, les chiffres officiels, hein, c'est un peu plus de 30% d'augmentation des violences faites aux femmes. Bon, comme on dit, hein, à chaque fois qu'on pose ces questions, ce sont des chiffres officiels. Hein. Peut-être que la réalité est encore plus élevée. Mais vous vous attendiez, avec le confinement, à cette augmentation aussi forte ?
On s'attendait, en fait, à ce que certaines situations empirent.
D'accord.
Souvent... On n'a pas remarqué, en tout cas de notre côté, une augmentation des appels, mais justement parce que le confinement a entraîné l'impossibilité pour certaines femmes de pouvoir contacter les services, ouais. Et donc a engendré justement des situations encore plus compliquées à résoudre. On savait que certaines situations allaient être empirées et allaient être beaucoup plus compliquées. On avait des suivis psychologiques ou juridiques, mmh, qui se sont arrêtés parce que vous imaginez combien c'est compliqué de prendre le téléphone, de s'isoler dans la salle de bain pour discuter avec la psychologue qu'habituellement on voyait toutes les semaines. Enfin, mmh, forcément, il y a certaines situations qui sont beaucoup plus difficiles. C'est sûr. On s'attendait à ça. C'est aussi l'intérêt d'assurer ce type de permanence pour rappeler qu'on est là et qu'en cas de nécessité, on peut nous voir.
Alors, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, mais comment fonctionnez-vous en période de confinement pour répondre notamment à ces problématiques ? Alors, il y a ce point d'accueil éphémère, certes, qui est mis en place au centre au shopping de Grand Plaisir. Comment vous travaillez quotidiennement ?
Alors, en ce moment, dans cette période, effectivement... difficile. Nous sommes donc, toute notre équipe est en télétravail. Donc notre équipe, ce sont des juristes, des psychologues et des écoutants. Mmh. Et donc pour le moment, on est tous en télétravail. Alors ce que ça veut dire, c'est qu'on peut toujours nous joindre à notre numéro. Je vous le donne. C'est le 01 30 44 19 87. Il y a un transfert d'appel qui est directement fait sur des portables, hein, de nos structures.
D'accord.
Et on peut, on est entendu par la personne et on peut avoir exactement le même type d'offre de service qu'habituellement, à savoir des consultations par une psychologue ou des consultations par une juriste. Mmh.
Merci en tout cas pour ces précisions, Julie Mottier. Je rappelle que vous êtes avec nous pour nous parler de la création d'un point d'accueil éphémère pour les femmes victimes de violences conjugales au centre commercial au shopping. Donc, Grand Plaisir. Il se trouve où d'ailleurs exactement ce point d'accueil ?
Il est juste derrière, il est dans un local juste derrière la pharmacie. C'est la sortie du côté Apolline. Je crois que c'est la sortie du côté de la gare.
D'accord.
Donc vraiment juste derrière la pharmacie, on peut très bien aller à la pharmacie et demander où est la permanence. La pharmacie est au courant.
D'accord.
Je dis ça parce que c'est anodin, mais on ne sait jamais. Le bar tabac est au courant. Enfin voilà, ne pas hésiter non plus à demander aux agents de sécurité, etc. Tout le monde, en tout cas, au centre commercial, est avisé de cette permanence.
Julie Mottier, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable du service d'aide aux victimes pour l'association Unimontaine DIR. Merci beaucoup.
Oui, merci à vous, Noureddine.
Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. On se retrouve tous les mercredis, comme à cette heure-ci, de 17h à 18h en direct. A tout de suite. Marmite fait son actu. On se retrouve tous les mercredis de 17h à 18h en direct pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Nous l'avons reçu hier, Franck Leton, donc pour parler de la situation difficile que vivent les communautés Emmaüs un petit peu partout en France. Bien, je vous propose d'écouter son appel aux dons.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Franck Leton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la communauté Emmaüs de Trappes et vous êtes avec nous par téléphone, notamment pour commenter cet appel aux dons national qui a été fait par Emmaüs France. C'est la première fois depuis la naissance d'Emmaüs qui, je le rappelle, remonte à 1949. Pour faire un peu d'histoire par l'abbé Pierre, bien entendu, pour celles et ceux qui ne sauraient pas encore. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots, Franck Leton, pourquoi il y a eu cet appel national au don pour Emmaüs ?
Effectivement, oui, comme vous l'avez dit, Emmaüs a l'habitude de vivre de son activité et de son travail, ce qui permet donc de retrouver toute dignité pour les personnes que l'on héberge et que l'on accueille. Et là, exceptionnellement, comme on peut s'en douter, nous n'avons plus de dons, nous n'avons plus rien pour nourrir cette activité et faire travailler donc nos compagnons sur les communautés et les frais-cours. De toute façon, de la même façon que tout le monde. Nous avons des loyers, nous avons des remboursements, nous avons des charges d'une manière générale et sans aucune rentrée d'argent. Donc nous avons fait un appel public, voilà, exceptionnel, pour venir à ces besoins. Quoi, voilà.
Et quelle est la situation particulière de la communauté Emmaüs de Trappes ? Est-ce qu'elle est semblable aux autres communautés un petit peu partout en France ou est-ce qu'il y a une spécificité ?
Alors, je ne sais pas si nous avions mieux travaillé ou nous avions eu plus de chance, mais effectivement, on avait une trésorerie excédentaire qui nous permettait justement d'anticiper nos investissements. Trappes dans une zone où nous étions attendus, puisque nous avons réouvert il y a 2 ans, oui. Et tout de suite, le public est arrivé. Aussi bien les donateurs que les acheteurs et notre communauté fonctionnent aujourd'hui très bien. Fonctionnaient très bien, évidemment. Mmh. Nous n'avons pas de problème pour le moment, de problème de trésorerie. Nous arrivons à payer nos charges. Il ne va pas falloir que cela dure un mois, 2 mois. Mm-hmm. Mais il y a des communautés voisines dans les Yvelines qui n'avaient pas plus d'un mois de trésorerie excédentaire et qui leur a permis donc de payer les premières charges, mais qui ensuite, là, n'ont absolument plus rien du tout et menacent aussi de fermer. Voilà. Mm-hmm. Donc, à Trappes, on n'a pas de souci pour le moment. Ça fonctionne bien. Voilà, on ne peut pas dire c'est extraordinaire, mais au moins on a la tête hors de l'eau, même si les épaules sont dedans. Mmh.
Alors justement, que font les compagnons actuellement ? Alors on peut peut-être rappeler d'ailleurs ce qu'est un compagnon au sein d'Emmaüs, pour celles et ceux qui connaîtraient pas encore le fonctionnement d'Emmaüs. Et puis surtout, qu'est-ce qu'ils font là pendant cette crise du Covid, puisqu'ils doivent être tous en confinement ?
Oui, tout à fait. Donc les compagnons, ce sont les personnes accueillies sur une communauté. Elles sont accueillies, hébergées, nourries, logées, donc, et fournissent un travail. Voilà. Donc l'activité Emmaüs de récupération est effectuée par les compagnons qui récupèrent les dons, les valorisent, les revendent, etc. Donc voilà, un compagnon est un acteur de solidarité puisque son travail va aussi permettre d'alimenter une grande chaîne de solidarité nationale, voire internationale. Ouais. Donc le compagnon participe aussi à l'ensemble des décisions, à tout un ensemble de choses. Hein. Même s'il arrive en difficulté, il devient une force vive donc, de la communauté. Aujourd'hui, les compagnons, depuis 3 semaines, 1 mois, ont nettoyé la communauté de fond en comble, ont trié ce qui restait à trier, valorisé ce qui restait à valoriser, ont préparé l'ouverture en attendant que ça réouvre. Là, on est en train de construire et de fabriquer des meubles avec des palettes que l'on a. Voilà, tout ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, on essaie de le faire. D'accord. Mais il faut aussi occuper le temps, ça c'est clair. Mais tout le monde est toujours dans un cadre horaire défini, peut-être un peu moins important que celui qu'on avait avant. C'est-à-dire que tout simplement, il y a 2 équipes qui se succèdent. C'est-à-dire qu'il y en a une qui vient le matin de 9h à midi et l'autre qui vient de 13h30 à 16h30, voilà, pour éviter non plus qu'il y ait trop de personnes ensemble sur le site.
Voilà, vous respectez quand même les gestes, pour respecter les gestes barrières quand même avec les compagnons qui travaillent quotidiennement chez vous.
Oui, c'est obligatoire. Donc le port du masque est obligatoire à l'intérieur. Voilà. On reste à 1 mètre de distance. Après, c'est pas toujours facile. Hein. Il y a des gens qui doivent travailler à 2 pour certaines choses et tout. Donc là, le port du masque est important. Du gel hydroalcoolique est fourni à chaque personne, disons-nous, aussi bien dans les hébergements que sur place, avec obligation de se laver les mains toutes les heures, comme c'est préconisé, et d'assurer quelquefois, en passant devant un distributeur, eh bien voilà, un nettoyage beaucoup plus complet avec du gel hydroalcoolique. Voilà. Mmh.
Vous êtes combien de compagnons à peu près à la communauté de Trappes?
Alors, il y a 20 compagnons.
Il y a 20 compagnons. Compagnons.
Mmh. Ouais, voilà, 20 donc, compagnons. 10 le matin et 10 l'après-midi.
Quand pensez-vous, alors c'est peut-être une question un petit peu difficile, hein, Franck Leton, mais quand pensez-vous pouvoir rouvrir, notamment pour collecter des dons et puis pour pouvoir ensuite voilà, les retaper, les remettre à neuf pour certains, en tout cas les arranger, et puis après pouvoir les vendre? Est-ce qu'il y a une perspective là positive? Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à d'autres associations, ou est-ce que pour l'instant vous n'en savez pas plus?
Alors, les deux. Il y a l'envie, il y a la réalité. L'envie, effectivement, c'est de redémarrer la collecte rapidement, dans la mesure, évidemment, du possible, hein, mais on se pose les mêmes questions que tout le monde. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir reprendre avec cette épée de Damoclès du Covid au-dessus de la tête. Ça, c'est clair. On aura les mêmes soucis que n'importe quel artisan, commerçant, particulier qui devra aussi aller faire ses achats, etc. Nous, on recevra les gens et on se mettra en danger comme les autres nous mettront en danger. On va devoir tous, de toute façon, vivre avec ça. Ouais. Après, on ne peut pas garantir, ni vous, ni moi, ni qui que ce soit, même pas le gouvernement, le risque zéro. C'est impossible. Mmh. Mais on va devoir vivre avec ça. On va faire ce qu'il faut pour limiter la casse, ça c'est clair, mais on va devoir quand même reprendre notre activité. On a déjà commencé à enregistrer des rendez-vous pour après le 11 mai pour aller ramasser, récupérer chez les gens qui souhaitent nous donner. Voilà.
D'accord.
Donc ça, c'est pareil. Ça se mettra en place, mais qu'avec les gestes barrières. Et si les gens comprennent aussi, quand on va chez eux, qu'ils doivent aussi mettre en place ces fameux gestes barrières. Ça, c'est clair. Mmh. Voilà. On limitera le nombre de personnes chez nous dans les camions. D'habitude, on part à 3, et ben là, ils partiront à 2. Mmh. Ça, c'est clair. Après, la grande question, c'est l'ouverture au public. Voilà. Ouais. Comment va se passer un petit peu la vente dans les espaces de vente? Est-ce qu'on va devoir faire rentrer les gens 10 par 10?
Ouais, un peu comme dans les grandes surfaces ou dans les autres boutiques. Ouais.
Je ne sais pas, ça va être très compliqué chez nous. Est-ce qu'on va faire un sens giratoire? Est-ce qu'on va faire... honnêtement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on va rouvrir. Mmh. On a la chance aussi d'avoir un espace à l'extérieur, et j'espère qu'il fera beau à ce moment-là. On pourra étaler les choses dehors, voilà, tout simplement, pour permettre à chacun d'accéder dans de bonnes conditions, sans être serrés les uns contre les autres, aux vêtements, à la vaisselle, aux meubles, à tout ce que l'on veut. Mais on fera le maximum, oui.
Franck Leton, responsable de la communauté Emmaüs des Trappes, est avec nous dans cette émission Marmite fait son actu. Je le rappelle, un appel aux dons national a été lancé pour venir en aide à toutes les communautés Emmaüs, notamment celle de Trappes. Alors vous nous disiez à l'instant, Franck Leton, que la situation de Trappes était moins catastrophique que d'autres. Hein. Voilà, ça c'est chaque communauté a sa propre gestion. Mais à partir de quand est-ce que la situation va vraiment être compliqué et ingérable, et peut-être même entraîner malheureusement des fermetures de communautés? Est-ce que vous vous êtes donné une date butoir?
Alors, on n'a pas de date butoir, on a une somme butoir. Emmaüs France a lancé un appel à la générosité du public. Il faut clairement que l'on récupère 5 millions d'euros. Voilà. Aujourd'hui, on en est à peine 2 millions. Ça a marché très, très fort dès le début. On a récupéré dans les premières 48 heures 1 600 000 euros. Voilà. J'ai eu la confirmation il y a une demi-heure. Ça marche très, très bien. Les gens répondent de toute façon. Qui que l'on soit, d'ailleurs, je pense que les autres associations qui ont fait cette demande-là ont aussi reçu la même chose de tout le monde. Après, j'espère qu'il n'y aura aucune fermeture. J'espère qu'il n'y aura aucune fermeture. Parce que, vous savez, on maintient un siège social, on maintient Emmaüs International, nos actions de solidarité grâce aux cotisations, grâce à l'apport des communautés. Aujourd'hui, le travail que fait les communautés, habituellement, génère de l'argent, puisqu'on gagne de l'argent. Oui. Cet argent sert pour nous à payer nos frais et ensuite à engager, à s'engager dans des grandes chaînes de solidarité emmaüsiennes, voilà, que ce soit locale, nationale ou internationale. Si ça n'existe plus, on va mettre en panne toutes ces chaînes-là. Ouais. Notre siège aussi vit des cotisations de ces antennes, etc. Donc le siège, si on n'a plus personne pour négocier au plus haut niveau, pour travailler avec nous sur un cadre général de fonctionnement, on sera sérieusement, très sérieusement fragilisé. Ça n'entraînera peut-être pas de fermeture ou beaucoup de fermetures, mais on va bouleverser le mouvement dans son ensemble. Et ça, je ne sais pas ce que ça peut donner. Pour l'instant, on a du mal à l'évaluer. Ça, c'est clair. On essaie d'y penser. On a des scénarios catastrophes qui sont en train de se mettre en place, mais on essaie surtout de mettre en place des scénarios qui vont nous permettre de rebondir et de continuer. Ça, c'est clair. Et on y croit. Et ça se fera que grâce au public et aux gens qui voudront bien nous suivre, comme ils le font depuis 1949, là, vous l'avez dit tout à l'heure.
Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient faire un don concrètement, comment elles font pour faire ce don ?
Alors, pour faire un don en argent, si elle souhaite aider le mouvement, et on en a grandement besoin, donc il faut aller sur le site Emmaüs France, et là on trouve en deux clics les directives qui vont permettre à chacun donc de donner un petit coup de main. Ça, c'est important aussi. Voilà. Chaque euro donné sera utile. Et ça permettra justement de garder les personnes et de ne pas remettre à la rue des gens qui ont eu du mal à s'en sortir, hein, que ce soit pour les compagnons ou les gens qui sont aussi dans des structures d'insertion propres à Emmaüs. Voilà. Pour la communauté de Trappes, venez continuer à faire vos dons. Nous, on a besoin de dons, on a besoin de vêtements, on a besoin de bibelots, on a besoin de livres, on a besoin de meubles pour continuer à travailler. Et c'est ça qui va nous faire vivre. Voilà.
Voilà, le message est lancé en tout cas. Je suppose, Franck Letton, que vous avez reçu également beaucoup de témoignages de soutien pendant cette fermeture, parce que les communautés Emmaüs en général, un peu partout en France, et puis particulièrement à Trappes, sont très soutenues par le public.
Alors, des témoignages directs, pas tant que ça, parce que je pense que les Français sont confinés chez eux et pensent aussi beaucoup à ce qui va leur arriver, à ce qui va leur arriver dans leur famille, ce qui va leur arriver dans leur travail, ce qui va arriver au pays tout entier. C'est très difficile d'aller témoigner avec gentillesse à une association que l'on a envie de soutenir. Mm-hmm. Néanmoins, on est présent. On sent quand les gens passent des petits coups de klaxon, on sent qu'à tout ça, il y a des dons qui arrivent directement aussi sur la communauté. On a commencé à accueillir des dons directement, là, voilà, de gens qui voulaient nous soutenir. Il n'y a pas de témoignage direct, mais on sent effectivement qu'il y a un soutien derrière tout ça et derrière chacun.
Mmh. Franck Letton, merci. En tout cas, je rappelle que vous êtes le responsable de la communauté Emmaüs de Trappes et que vous étiez avec nous pour parler de cet appel au don national d'Emmaüs France pour venir en aide à toutes ces communautés. Et puis, on ne le rappellera jamais assez, mais tous ces compagnons, toutes ces compagnonnes, je ne sais pas si on peut dire ça aussi, parce qu'il y a également des femmes, voilà, c'est des personnes qui étaient en grande difficulté, c'est des personnes qui étaient peut-être pour certaines d'entre elles à la rue, mais qui arrivent à remettre un pied vraiment à l'étrier de la vie, de la vie sociale, qui arrive à s'en sortir grâce aux communautés Emmaüs. Et donc, voilà, c'est très important pour celles et ceux qui ont le moyen de faire soit des dons financiers ou bien des dons aussi physiques pour soutenir les communautés Emmaüs.
Oui.
Merci.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Salut, salut, c'est MC Solar sur Marmite FM 88.4.
Rien, c'est personnel. Une douleur éternelle que je ne partageais qu'avec le ciel. Le monstre aux yeux verts, synonyme de la jalousie. Taxe l'eau du Sahel juste pour remplir son jacuzzi.
Et c'est comme ça que ça fonctionne.
Dans ce monde des tâches, les gens les plus lâches jettent la pierre et ensuite ils se cachent. C'est comme ordonner, coordonner. Dieu ordonne de pardonner. J'ai pardonné, donné de l'amour, mais on ne m'a pardonné.
Mais pourquoi?
Pourquoi? Parce que c'est la faute aux bises. Dicton.
Ce millénaire est monétaire.
Le peuple est impopulaire à croire que le vautour a une promo à l'échelle planétaire. Il justifie la traîtrise,
la fourberie.
L'économie c'est toujours plus de loups dans la bergerie.
Est-ce les salauds qu'on adule?
Des gosses, des adultes, ça culque. Le nouveau culte est sur le globe, le catapulte.
Yeah. au fond vendre des casquettes, des baskets.
Une religion de supermarket.
Mes neurones se bousculent, speed est tel des spermatopites en car. Et dans la monospace, c'était Ayrton Solar. Dans les bas-fonds, rêve des fonds du FMI. Mais au fond, on sait que les familles sont souvent proches du RMI. Les gosses pour des Pokémon, taxes dans les portefeuilles, les Pokémon. Satan m'entend pour je vois pointer ses cornes.
Mais vous parliez de millions,
de Saint-Emilion. Mais comme on est des milliers, combien seront humiliés? L'histoire de l'art a comme la couleur du dollar.
Et comme dit Rico, y'a pas que des jambons à la tête de l'art. Sinon quoi de neuf?
Rien de neuf, rien que du bluff. J'suis veuf, avec les meufs peut-être qu'il faut se la jouer rough and tough. Donner des kisses et rester pisse, tel Jésus le Christ. Ou dégainer le Christ, tel 666 le glisse aux abysses.
Et la musique?
Moi je l'aime, ils veulent l'emprisonner. Imagine Cupidon lançant des flèches qui sont empoisonnées.
C'est un espace de liberté
qu'on plage dans un coin. Des clous, des clones de clous, des clowns, des clans de nains de jardin. Voilà pourquoi je me place toujours face à Ponce Pilate. Ricoche sur le beat comme sur de l'aube, le vers la pierre plate. Lance sourat tes psaumes sur l'étendard du gnome. Sans chrome, avec au cœur du boom
dans leur paume.
Dans les bas-fonds, rêve des fonds du FMI. Mais au fond, on sait que les familles sont souvent proches du RMI. Dans les bas-fonds, rêve des fonds du FMI. Mais au fond, c'est que les familles sont souvent proches du RMI.
Écoutez, Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Allez, tout de suite, le troisième invité de l'émission.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Abdelaziz El Jawari, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du CEMI, le Centre d'études et d'initiatives musulmanes des Yvelines. Et à quelques jours du début du Ramadan, vous allez nous parler de l'organisation du jeûne dans le cadre du confinement. Alors, est-ce que vous pourriez tout d'abord, pour commencer cet entretien, nous présenter le CEMI pour celles et ceux qui ne le connaissent pas?
Oui, bonjour à vous et à toutes vos auditrices et vos auditeurs. Le CEMI, en effet, le Centre d'études d'initiative musulmane des Yvelines, a pour objet justement de suivre l'actualité de la communauté musulmane à l'échelle du territoire, à l'échelle du département, à la fois en termes d'études, justement. Donc on a par exemple fait tout un travail sur la question des carrés confessionnels pour faire remonter les besoins. Donc on a fait une enquête en 2019 et on avait interpellé les élus sur cette question par rapport au cadre légal, mais aussi les besoins. Voilà. Mais ça peut être aussi sur d'autres questions, sur les lieux de culte, sur l'enseignement ou sur d'autres sujets attenant à la vie de la communauté de manière générale, mais aussi de son rapport à son environnement. Donc voilà, nous sommes aussi un lieu de ressources pour des structures publiques ou privées qui ont besoin d'être accompagnées sur un certain nombre de thématiques.
Alors le mois du Ramadan devrait débuter vendredi. C'est demain soir, donc jeudi, que les représentants du culte français musulman vont se réunir, notamment à la Grande Mosquée de Paris, pour la nuit du doute. Alors comment se passe cette soirée de détermination du début du Ramadan?
Donc en effet, il y a deux écoles en la matière. Donc l'école rationaliste, j'allais vous dire, parce que le mois du Ramadan, comme tous les autres mois d'ailleurs du calendrier musulman, c'est des mois lunaires, tout en sachant que comment dire, ça débute avec l'observation de la naissance de la Lune. Mmh. Et c'est pas que le mois du Ramadan, c'est tous les autres mois, c'est exactement la même chose.
Mmh.
Donc soit vous avez toute une école qui se base sur les données scientifiques et à partir de là, il n'y a pas forcément de doute en réalité parce que le mouvement de la Lune est très bien connu et assez précis. Et donc nous pouvons déterminer même, disons à l'avance, le début ou la fin d'un mois du Ramadan, de tel autre mois d'ailleurs.
Ouais.
Et donc vous avez un certain nombre de pays musulmans dans le monde qui ont adopté ce calendrier scientifique depuis très longtemps.
Mmh.
Et vous avez une, j'allais dire, une école un peu traditionnaliste aussi qui veut absolument se baser sur la nécessité de voir la Lune à l'œil nu d'une certaine manière, ce qui est un peu compliqué dans un certain nombre de pays, notamment en Europe. Le climat ne favorise pas forcément toujours d'observer la Lune. Donc voilà, donc vous avez, il y a toujours un débat entre ces deux écoles théologiques d'une certaine manière. Donc en effet, pour ce qui nous concerne, pour la France, ça fait maintenant des années où, en effet, il y a toujours cette réunion des responsables du culte musulman à la Grande Mosquée de Paris pour tout simplement déterminer le début du mois du jeûne. Donc c'est, vous avez un certain nombre de responsables, mais aussi des spécialistes qui, en fonction d'un certain nombre de données d'observation, vont prononcer, en tout cas vont confirmer ou affirmer le début du mois du jeûne pour le lendemain.
Mmh. Alors depuis le début du confinement, les mosquées dans les Yvelines sont fermées. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place. Par exemple, je pense aux prêches du vendredi sur Internet qui ont été proposées par certaines mosquées. Alors est-ce que les fidèles ont été au rendez-vous de cette nouvelle façon, on va dire, de fréquenter virtuellement les mosquées ?
En fait, juste une petite précision,
oui.
Toutes les mosquées ne sont pas fermées. Moi-même, je suis président de la mosquée de Mantes-la-Ville, elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Tout en sachant qu'il faut faire la distinction entre deux choses. Les autorités ne nous demandent pas de fermer les mosquées. Donc nous sommes tenus de ne pas organiser les rassemblements religieux, ce qui
d'accord,
est
les prières
normal
collectives.
dans le cadre sanitaire actuel. Ceci dit, au sein du CNI, nous estimons que la mosquée, elle a aussi une dimension d'intérêt public. Et donc, la mosquée, on peut pas la résumer juste au rituel. Donc il y a un certain nombre de missions que les mosquées peuvent et doivent remplir dans ce genre de crise.
Mmh.
Il y a tout ce qui est le champ de la solidarité. Nous avons un certain nombre de familles, que ce soit dans la communauté ou en dehors de la communauté, qui sont dans des vraies difficultés, des difficultés réelles, en termes notamment alimentaires, mais il y a aussi de la détresse psychologique, spirituelle, et ainsi
ouais.
de suite. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et puis il y a l'accompagnement de fin de vie. Donc malheureusement, il y a beaucoup de... Il y a quand même pas mal de décès, donc déjà vous avez des décès pour des causes naturelles, voilà. Mais avec le Covid, vous avez aussi des décès dus au coronavirus. Donc ça nécessite un travail d'accompagnement à la fois des familles et l'accompagnement de fin de vie des malades, mais aussi tout le rite funéraire et ainsi de suite. Donc,
Je me permets de vous couper avec un vrai problème actuellement avec le Covid. Hein. On sait que beaucoup de musulmans qui sont décédés, y en a bon, qui sont d'origine étrangère, qui souhaitaient être enterrés à l'étranger, c'est pas forcément possible pour eux. Il y a également ici le manque pour les musulmans français de carrés, de places dans les cimetières. Comment vous gérez cette situation ?
En fait, c'est une situation très délicate, c'est pour ça on profite de votre antenne pour rappeler notre interpellation à la fois aux élus locaux et aux représentants de l'État à l'échelle du département, parce que c'est une réelle problématique. Donc au-delà même, en fait, la crise du Covid ne fait que exacerber une situation déjà très tendue. Parce que sur l'ensemble des Yvelines, et d'après notre enquête de 2019, on a à peine 25 communes sur tous les Yvelines qui ont un carré musulman.
Mmh.
Et donc plus de la moitié sont pleins déjà.
Mmh.
Donc ce qui fait qu'en réalité, nous n'avons pas, on est loin d'avoir le minimum nécessaire pour pouvoir faire les cérémonies, les enterrements tout simplement, pour les familles, pour les accompagner. Donc ce qui fait que On avait beaucoup de personnes du département qui sont enterrées hors du département parce que tout simplement il n'y a pas de place et les communes n'acceptent pas des personnes qui sont en dehors de leur commune, ce qui peut parfois se comprendre. Et donc le rapatriement a été très souvent, autant les premières générations c'était un choix personnel parce que les gens voulaient être enterrés dans leur pays d'origine, autant depuis déjà deux générations ça devient moins évident parce que les familles veulent que enterrer leurs défunts ici parce que ne serait-ce qu'après pour se recueillir, ils vont pas prendre un billet pour aller de l'autre côté de la Méditerranée pour se recueillir sur la tombe d'un proche. Mmh. Et vous avez même des familles aujourd'hui qui ont de moins en moins d'attaches avec les pays dits d'origine, dont ils parlent même pas forcément la langue ou dont ils n'ont pas forcément de lien. Et donc le besoin est tout simplement de pouvoir enterrer nos défunts ici même chez eux, j'allais dire, en France et dans leur commune. Et surtout qu'il y a un cadre légal qui est très clair en la matière. Certes, les maires n'ont pas d'obligation de faire un carré confessionnel, mais ils sont fortement, c'est fortement recommandé par le ministère de l'Intérieur. Et donc, il y a eu plusieurs circulaires en la matière pour demander aux maires de prendre à bras le corps cette problématique. Et surtout que ça ne demande aucun investissement particulier, c'est-à-dire aménager un carré confessionnel musulman dans un cimetière municipal, ça ne nécessite pas d'investissement particulier, donc on ne demande aucun aménagement particulier. La seule particularité, c'est que les tombes sont rassemblées et elles sont orientées vers l'est, vers la Mecque, mais sinon ça ne demande aucun investissement, aucun équipement particulier.
Et est-ce qu'il y a des cas de personnes musulmanes décédées là, qui n'ont pas réussi à trouver, ou les familles n'ont pas réussi à trouver de place dans un cimetière? Et si oui, bah, que sont devenus les corps? J'ai envie de vous demander, désolé de cette question. Mais...
Bah, j'allais vous dire, c'est le cas rencontré malheureusement toutes les semaines hein, dans à l'échelle du département. Donc on a des décès en effet un peu partout. Et soit les carrés, le peu de carrés confessionnels qui existent, certains sont pleins. Donc voilà. Ou tout simplement, il n'y en a pas. Et donc on avait par exemple la ville de Valenton qui acceptait de prendre des personnes de l'extérieur de la ville. Mais bon, la demande elle est tellement forte maintenant d'un peu partout qu'ils octroient pas un accord systématique comme avant par exemple. Et donc ce qui fait qu'on a des vraies problématiques d'enterrement. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de demandes d'autorisation au maire où il y a un carré musulman. Des demandes à l'extérieur qui leur viennent pour essayer d'enterrer les défunts. Vous en avez même des familles qui ont envisagé, qui ont même mis leur corps, par exemple, dans des équipements frigorifiques en attendant la fin du confinement pour pouvoir les emmener, trouver une place ou les emmener dans les pays d'origine. Donc ça donne vraiment lieu à des situations assez dramatiques. Et les familles n'arrivent même pas à faire leur deuil correctement à cause de ces situations.
Oui. Abdelaziz Al-Jawari est avec nous sur Marmite fait son actu. Je rappelle qu'il est président du CEMI, le Centre d'études et d'initiatives musulmanes des Yvelines. Voilà, avec nous à quelques jours du début du mois du Ramadan pour nous parler de l'organisation du jeûne dans le cadre du confinement. Alors Abdelaziz Al-Jawari, est-ce que, les musulmans le savent, mais peut-être pas tous les auditrices, les auditeurs, pendant le mois du Ramadan, en général, c'est vrai qu'il y a des prières collectives qui sont organisées le soir et qui sont beaucoup suivies par les communautés musulmanes. Ça ne va pas être possible cette année. Est-ce que les mosquées vont mettre en place des choses, notamment spécifiquement pour le Ramadan, en lien avec le confinement?
En effet, pour la communauté des fidèles, le mois du Ramadan, c'est vraiment un mois de spiritualité par excellence à tout point de vue, que ce soit en termes de prière, de lecture du Coran, mais aussi d'un certain nombre d'autres actes rituels. Et en effet, donc cette année, à cause du contexte sanitaire, on est dans l'impossibilité d'organiser ces rassemblements, donc de pouvoir organiser les prières de manière collective. Ceci dit, le Ramadan se déroulera quand même, et les croyantes et les croyants pourront et devront faire ce mois du Ramadan à la fois de jeûne Mais ça nécessite un peu de réorganisation, en effet. Donc nous serons privés de se retrouver collectivement pour l'ensemble de ces rituels. Cependant, c'est l'occasion aussi de faire ces rituels en famille, à la fois pour la rupture du jeûne, à la fois pour les prières du soir. Les mosquées se sont organisées pour essayer de dispenser un certain nombre de choses en ligne, que ce soit des prêches, que ce soit des lectures de Coran, que ce soit des rappels spirituels. Donc il y a beaucoup d'initiatives en la matière. Voilà, pour essayer d'aider les croyants. Vous avez des imams aussi sur certaines mosquées qui sont joignables par téléphone pour répondre aux questions des fidèles. Donc voilà, donc nous serons privés en effet des cérémonies collectives, mais ça n'empêche pas que les actes rituels auront lieu individuellement ou sur le plan familial, tout en sachant que les mosquées organisent voilà, via Internet, via les réseaux sociaux ou sur les sites Internet, un certain nombre d'interventions pour essayer d'accompagner les fidèles au mieux.
Et je suppose qu'il faudra également mettre un trait sur la fête de la fin du Ramadan à la mosquée. Hein. Ça va être compliqué, certainement fin mai, même s'il y a un début de déconfinement prévisible ou prévu en tout cas pour le 11 mai. Ça va être compliqué pour célébrer la fête de la fin du Ramadan à la mosquée en tout cas.
De toute façon, nous sommes attentifs à comment dire aux recommandations des services de l'État et des services sanitaires. Donc c'est eux qui déterminent comment dire tout ce qui est rassemblement public. Donc voilà, donc nous respecterons les règles qui seront édictées par les autorités compétentes en la matière. Après voilà, ceci dit, même dans ce cadre de confinement, il y a un tas de choses qu'on peut faire tout de même, parce que on parlait du mois de Ramadan, certes c'est un mois de spiritualité, il y a un certain nombre de rituels, mais c'est aussi un moment où c'est un moment de solidarité.
Oui.
Donc là c'est vraiment la période par excellence où cette solidarité de la mosquée, De la communauté musulmane à travers ses institutions, notamment les mosquées, elle doit s'exprimer. Donc nous avons un certain nombre de nos concitoyens, musulmans ou pas musulmans d'ailleurs, et c'est pas là l'importance, qui sont dans le besoin, à la fois sur le plan alimentaire, ou des personnes âgées ou des personnes handicapées qui ont besoin d'assistance. Et donc je pense que la communauté musulmane a tout son rôle qu'elle peut et qu'elle doit jouer en ces temps difficiles. À l'échelle de notre mosquée par exemple, nous assurons déjà des colis alimentaires pour plus de 300 familles, donc nous distribuons déjà plus de 5 tonnes de denrées alimentaires par semaine. Et donc cet effort là continuera pendant le Ramadan et continuera pendant toute la période tant que c'est nécessaire. Et donc nous pensons au sein du CMI justement que les mosquées doivent vraiment jouer leur rôle, et la communauté elle est très attentive et elle est très sensible à ces questions, et surtout qu'il y a un besoin et qu'on ne peut pas se permettre, parce que la mosquée c'est pas juste un lieu de rituel. Voilà, il y a une dimension d'utilité publique, il y a une dimension de solidarité qui doit absolument s'exprimer.
Abdelaziz Al-Jawari, merci beaucoup d'avoir été avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes président du CEMI, le Centre d'études et d'initiatives musulmanes des Yvelines. Voilà, pour nous parler du Ramadan à quelques jours du début du Ramadan. Ce sera certainement vendredi, bon, peut-être samedi, mais bon, ça à voir, suspense. Merci beaucoup.
Merci à vous et voilà, nous souhaitons un joyeux Ramadan à toutes et à tous. Et nous espérons justement que toute cette crise puisse avoir une fin le plus tôt possible pour tout le monde. Et voilà, merci à vous.
Pour terminer cette émission, Marmite fait son actu. Nous allons donner la parole à Pierre Joannet de l'UFC Que Choisir cette semaine. Pierre nous explique pourquoi il ne faut surtout pas jeter les lingettes désinfectantes ou les lingettes de tout type dans les toilettes.
La Minute Consommateur avec Pierre Joannet.
Désinfecter durant l'épidémie de coronavirus, c'est légitime et même indispensable. En revanche, jeter lingettes et gants jetables dans la cuvette des WC, c'est irresponsable et ça peut finir par coûter très cher. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, ils font tous le même constat. Les interventions d'urgence se multiplient pour déboucher les canalisations d'eau usée, obstruées par les lingettes désinfectantes et les gants jetables. Et quand la canalisation parvient à les laisser passer, c'est au niveau des stations d'épuration qu'il faut intervenir en urgence. Lingettes et gants s'y agglomèrent en paquets, bouchent les grilles et les pompes. Sans intervention rapide, le système d'assainissement ne peut plus jouer son rôle. Les eaux usées partent dans la nature sans traitement. Nos toilettes ne sont pas des poubelles, rappelle très justement la Fédération des entreprises de l'eau, se faisant l'écho de tous les services d'assainissement de l'Hexagone. Depuis le début de l'épidémie, leurs interventions d'urgence sont 2 à 3 fois plus nombreuses que d'ordinaire, pour cause de lingettes et de gants jetables dans 70% des cas. Rappelons donc que ni les lingettes, qu'elles soient désinfectantes ou pas, ni les gants jetables ne sont biodégradables. Même quand les fabricants indiquent biodégradables ou compatibles tout à l'égout, c'est faux. Les lingettes n'ont pas le temps de se décomposer dans les canalisations, les gants jetables encore moins. La seule bonne façon de jeter les lingettes et les gants jetables, c'est de les mettre dans la poubelle du tout venant destinée à la décharge ou l'incinération. Surtout pas dans le conteneur de tri, ça ne se recycle pas. Et il ne faut pas se débarrasser des lingettes dans le compost de jardin. Quand elles se disent biodégradables, c'est en installation industrielle, pas chez soi.
Un grand merci à Pierre Joannet pour cette minute conso. Marmite fait son actu, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis en cette période de confinement. Vous le savez, vous avez envie certainement de parler, de vous exprimer, de partager avec nous des choses. Donc n'hésitez pas à le faire en nous appelant le mercredi et le mardi de 17h à 18h. Au 01 30 51 78 78 01 30 51 78 78. Vous pouvez également passer par notre site internet marmitefm.canalblog.com. Pourquoi pas par les réseaux sociaux Facebook en tapant marmitefm ou bien @marmitefm sur Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des informations à nous donner. La semaine prochaine, on essaiera également de parler de ce qui se passe également dans certains quartiers, dans les Yvelines, mais aussi un petit peu partout en France. Voilà, où on parle notamment dans les médias, dans la presse, de violents affrontements en tout cas entre la police et certains jeunes de quartier. Donc voilà, ce sera l'occasion de parler de cette thématique. Surtout, si vous avez des informations également, si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'appeler 01 30 51 78 78 ou à me laisser un message sur le site de la radio. Merci à tous et rendez-vous mardi prochain.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.